Rīgas cirks piedāvā sarunas par cirku.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet épisode spécial de podcast de Rīgas cirks. Je suis Mara Pavula, directrice de Rīgas cirks. Et j'ai le plaisir d'animer cette discussion aujourd'hui avec nos invités, Pierre-Jean Bréau et Camille Rau-Verpré, de la compagnie Le Deux Souplices. Ils vont clôturer leur série de représentations ici, à Riga ce soir, marquant la fin de notre saison dédiée au cirque contemporain français. Une saison qui célèbre la réouverture de notre Riga Cirque après les travaux importants. Leur spectacle, En attendant le grand soir, a capté l'attention du public en combinant danse, acrobatie, et une interaction directe avec les spectateurs. Nous allons parler de leur parcours, de la création de ce spectacle et de leur vision de cirque contemporain. Bonjour, Pierre-Jean, Camille. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, comment avez-vous vécu ces deux jours de représentation ici à Riga jusqu'à là?
Bonjour Mara. On a très bien vécu ces deux premiers jours. On nous avait prévenu que le public letton aurait peut-être du mal à se mêler à la danse. Et finalement, c'est le feu tous les soirs. Donc, on est super contents.
Puis, le lieu est magnifique, chargé d'histoire. Et pour nous, c'est les conditions idéales. Ce circulaire, cette arène remplie, là, c'est super.
Pouvez-vous nous parler un peu, Pierre-Jean, de votre première rencontre avec le cirque et comment cette passion s'est développée et comment c'est devenu une profession?
Alors, ça remonte à quelques années maintenant, mais ma première rencontre, ça a été une rencontre amoureuse. C'est comme ça que j'ai découvert, parce que je venais pas du tout d'un milieu qui était branché avec le cirque ou les arts de la rue. J'ai commencé à jongler, à m'intéresser à ça, puis à prendre mes premiers cours d'acrobatie. J'étais encore étudiant dans des études qui avaient rien à voir. Et puis, sorti de mes études, je me suis lancé à tenter les concours d'école de cirque. J'ai fait un an à Chambéry. Et puis, j'ai rencontré Alexandre Del Perugia, un pédagogue qui m'a aussi encouragé, accompagné. Et puis après, j'ai traversé, je suis rentré dans une première compagnie. Puis j'ai toujours eu des compagnies pour lesquelles j'étais interprète et tout en mêlant mes projets personnels à côté.
Et Camille, pourquoi cirque?
Et moi, le cirque, ça a été une rencontre en 2012, quand je suis arrivée au collectif La Basse-Cour. Parce que jusque-là, j'allais beaucoup au spectacle, mais pas spécifiquement du cirque. J'allais surtout voir de la danse, beaucoup de danse. Et puis les arts de la rue aussi. Voilà. Et en 2012, j'ai rencontré le collectif, et je crois que c'est la dimension collective et humaine qui m'a beaucoup plu, et qui a fait que j'ai complètement plongé dedans.
Et comment est née la compagnie Le Deux Souplices? Vous êtes les fondateurs, tous les deux, de la compagnie. Alors, pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de la compagnie?
Ça fait suite à des aventures antérieures. Moi, j'étais dans une compagnie qui s'appelait le Cubitus du Manchot depuis 2007, et avec laquelle on avait cofondé un collectif de compagnies à Nîmes, qui s'appelle La Basse-Cour. On a mutualisé des moyens pour faire de l'administration et créer un bureau, quoi, pour porter les projets. De cette compagnie s'est développée d'un trio à un collectif, à l'intérieur du collectif, pour créer un cirque avec autour d'un chapiteau. On était 15 sur le projet. Et on a sillonné les routes comme ça avec un spectacle qui s'appelait le Ballet Manchot jusqu'en 2014.
La compagnie telle qu'elle existe aujourd'hui, le Doux Supplice, elle est née aussi de notre rencontre qui s'est fait à la basse-cour.
C'est vrai.
En 2012. Et qui vient à la rencontre de nos deux parcours, donc le parcours artistique de Pierre-Jean, qui est dans le domaine du cirque depuis une vingtaine d'années. Et puis moi, mon parcours. Et puis en 2018, on a eu envie de concrétiser un peu ça et on a créé la compagnie administrativement en 2018. La compagnie Le Doux Supplice.
Ça correspond aussi, moi, à un moment aussi où j'assume une direction artistique en tant que en solo, quoi. Et Camille aussi arrive à un moment de sa formation, de son parcours, où du coup, on sent qu'on est complémentaires et que ça, on
a envie de... Et que ça marche bien.
Et que ça marche bien et qu'on a envie de voler de nos propres ailes.
Alors, si on parle de développement, de la création et développement de la compagnie, on arrive finalement sur le spectacle En attendant le grand soir. qui est la raison pourquoi vous êtes ici en Lettonie. Pouvez-vous nous raconter un peu comment ce spectacle est né? Quel était le processus des créations de ce spectacle qu'on voit aujourd'hui?
J'ai toujours travaillé sur les frontières entre danse acrobatie, ce qu'on appelait acrobatie dansée, acro-danse maintenant. Et j'ai toujours eu un goût pour la danse aussi, on va dire, sociale. Et ça part aussi d'un constat que on a de moins en moins l'occasion de pouvoir danser de manière spontanée. La danse est devenue affaire un petit peu de spécialistes et de communautés. La salsa, le tango, la techno, etc. Mais que du coup, il y a moins ce côté spontané qu'il pouvait avoir avant. Donc moi, je suis parti, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire du bal et des danses populaires. Et puis, j'en ai fait, une vision d'acrobate, de voltigeur, parce que pour moi, la relation d'être sur les épaules de quelqu'un ou dans les bras de quelqu'un, pour moi, il y a des sensations qui sont similaires. Et du coup, j'avais envie de partager ça, de remettre du sens au fait de se faire confiance, de vivre des aventures ensemble, à deux, collectivement. Du coup, c'est parti de ça. Il y a l'idée de vertige qui fait pour moi le lien entre ce qui fait marche, danse ou acrobatie. Je parle de vertige, c'est une notion de déséquilibre et de jouer avec le déséquilibre pour aller pousser l'aventure. Voilà. Et du coup, j'ai réfléchi à un espèce de processus qui ferait que tout au long du spectacle, tout petit à petit, on raconte que on va jouer, que on va se faire confiance, qu'on va s'abandonner un petit peu, et que tout est possible, et que la danse est une belle manière d'être ensemble.
Et vous êtes très nombreux sur scène dans ce spectacle. Quel était le rôle, en fait, et tous les autres artistes dans le processus de création? Et d'ailleurs, comment vous trouvez des gens avec qui vous avez envie de travailler ensemble, avec qui vous avez envie de créer des spectacles ensemble et collaborer?
Alors, au moment où j'imaginais le spectacle, je participais également à un projet avec la compagnie XY pour le projet Les Voyages, qui est un projet dans l'espace public. Et du coup, c'est aussi une grande famille, la famille des portées acrobatiques. Il y a des liens, donc par connaissance, en fait, ça se fait un peu comme ça au feeling. On n'a pas fait d'audition pour ce spectacle-là. J'avais déjà une distribution en tête d'acrobates qui aiment danser. Voilà, là, c'était l'idée, c'était la condition un petit peu de partager ça, ce goût de la danse. Donc, ça a été assez simple. En fait, de faire la distribution. Après, on a invité une danseuse qui a vraiment un parcours assez classique de danseuse classique contemporain, enfin, qui a vraiment tout un parcours de danse, qui amenait aussi une légitimité, on va dire, et puis un autre regard sur les et les danses. Et puis, on a invité aussi Guillaume, qui est plus un passeur de danse. Lui, il traîne depuis enfant dans les balles trad en France. Et du coup, il connaît beaucoup de danse trad. Donc, c'était intéressant pour nous aussi d'avoir ce regard-là. Et puis, on a Boris, qui est notre DJ sensible, qui a un parcours, lui, de clown et de beatboxer, et qui vient un petit peu aussi amener un regard et qui vient décaler un petit peu le propos et les matières.
Oui, il fait un peu contrepoint. Et puis, il permet aussi... je crois au public de pouvoir s'identifier aussi, parce qu'ils sont quand même, ces acrobates, ces danseurs, ils sont beaux, ils sont virtuoses. Et du coup, je pense que Boris, ça permet aussi de s'identifier, de garder un rapport humble au plateau.
J'imagine que tout le monde qui nous écoute n'a pas une idée quelles sont les étapes de création d'un spectacle, comment on crée un spectacle de cirque. Peut-être vous pouvez parler un peu de ces étapes-là, comme un exemple, pour donner une impression, en fait, quelles sont les étapes, combien de temps ça prend de construire un spectacle?
Alors, il y a plein de manières.
Il n'y a pas une recette.
Bon, sur ce spectacle-là, déjà, il y a toute une partie d'étapes de recherche, de bouquins, de vidéos, de musique, beaucoup. Moi, j'écoute aussi beaucoup de musique qui m'inspire. Je me fais un film, je me fais un scénario que je propose à l'équipe ensuite. Et du coup, à chaque résidence, on se retrouvait, on travaillait sur le scénario, et puis de résidence en résidence, je modifiais. Ça évoluait évidemment avec eux aussi pendant, parce que entre le film que j'ai dans la tête et puis la réalité, c'est différent, forcément. Faut être prêt aussi à lâcher, à laisser la place, parce que le grand enjeu, c'est quand même que chacun trouve sa place à l'intérieur. Donc il y a une direction claire que j'assume, qui est assumée par l'équipe, et en même temps il y a évidemment des interactions et l'équipe aussi vient nourrir cet imaginaire. Et puis en termes de durée, ça a pris une première année jusqu'à un premier jet en fin d'année. Et puis, on s'est remis au travail pour peaufiner sur une deuxième année. Donc, en gros, ça s'est fait sur... Entre la première, l'idée qui germe et la sortie, ça prend environ quand même pas loin de 3 années.
Ouais. Et sur la première année où il commence à se faire son film et son scénario, on cherche les moyens aussi pour pouvoir travailler. Donc, on cherche de l'argent et puis on cherche des lieux pour pouvoir répéter parce qu'on est, vraiment éclaté. On n'a pas de lieu fixe. Au doux supplice, et donc du coup on cherche des théâtres qui peuvent nous accueillir pour qu'on puisse créer et imaginer le spectacle.
Combien de semaines de résidence vous avez fait, vous avez compté?
On les a comptés au départ. Moi, il me semble, initialement, on avait 16 semaines de résidence, et puis il s'est trouvé que le spectacle est sorti en novembre 2019, donc juste avant la pandémie. Et donc l'année 2020, elle a été un peu particulière pour nous parce qu'on l'a joué 8 fois en 2020 et on l'a joué surtout avant le confinement en France pendant l'été. En fait, on a transformé les dates qui étaient prévues en diffusion en résidence pour pouvoir quand même continuer de travailler, pouvoir se retrouver et garder le lien entre nous. Donc finalement, on a fait plus de résidences que prévu.
Et vous avez fait combien de représentations en tout avec le spectacle?
Eh ben, donc j'ai compté ce matin. Ce soir, ce sera la 170e. Et normalement, en 2025, on va fêter la 200e.
Ouais. C'est très beau.
Ouais, on est super contents.
Ouais, je pense.
Ouais.
Que...
ouais, ouais.
Quelle est l'importance de la musique dans la construction de l'ambiance de spectacle?
Elle est cruciale. On a beaucoup réfléchi à ce qu'on donnait à voir. Comment faire pour que les portées soient dansantes? Ça passe justement aussi par la musique. Et qu'est-ce qu'on donne à entendre? Parce qu'il y avait vraiment l'idée de pas faire un bal participatif comme un autre, de pas jouer sur les clichés, de trouver un léger décalage sur ce qu'on donne à voir et à entendre. Donc les musiques, moi j'ai beaucoup cherché, beaucoup écouté. On a beaucoup de retours sur la qualité de la bande son, qui est effectivement très très belle. Varié. J'ai assumé aussi des choix très tranchés, de pouvoir passer d'un style à un autre. Il y avait aussi le danger de dresser un panel des danses populaires. C'est pas une conférence non plus, ou c'est voilà. Mais par contre, on s'inspire de plein de choses. On s'est rendu compte aussi que il y a plein de gens qui font de la musique d'aujourd'hui inspirée d'avant. De toute façon, tout ça n'est qu'un long cheminement de l'humanité. Du coup, on se rend compte que les choses sont belles justement parce qu'elles ont une évolution lente et que tout ça est du bien commun, en fait. L'idée, c'était de surtout pas aller sur les recettes faciles de mettre la musique qui fait danser tout le monde. Voilà. Mais moi, ça m'a passionné, cette recherche. Du coup, là, je suis en train de chercher pour les prochaines et c'est très nourrissant.
C'est vrai que la musique, elle est très, très bien choisie. Elle est très, très belle dans le spectacle. Et je trouve qu'elle, comme vous le dites, parfois, elle tranche vraiment d'une ambiance dans une autre ambiance. Et que je trouve que ça aide à rythmer le spectacle. Et hier, on a vu que même des enfants qui sont tout petits, qui sont venus, ils arrivent à regarder le spectacle pendant 1h30. Quand même assez long pour un spectacle. C'est rare aujourd'hui de voir des spectacles aussi longs au cirque, aussi des spectacles avec une équipe aussi nombreuse au cirque. Mais de garder cette attention, je trouve aussi que la musique, elle aide vraiment à donner ce rythme. Et j'avais presque l'impression que la musique, c'est la scénographie de ce spectacle, puisqu'il y a vraiment une esthétique d'un plateau vide dans ce spectacle. Il y en a, à part de la boule à paillettes, à la fin, il n'y a aucune scénographie. Mais il y a un choix scénographique qui m'intéresse beaucoup, vu qu'on est du Cirque de Riga, pourquoi travailler en 360 ? Et peut-être vous pouvez parler de pourquoi ces choix, mais aussi quels sont les challenges ou quels sont les atouts en fait de travailler, de faire ces choix.
Ben, le spectacle, initialement, il a été créé en quadrifrontal. Et il y avait vraiment la volonté, tu me compléteras Pierre-Jean, mais il y avait vraiment la volonté de casser le quatrième mur qu'on a au théâtre. Finalement, l'équipe est cachée dans le gradin au début. Et en fait, ils sont au même plan que le public. Et c'est vraiment aussi ce message-là de se dire qu'en fait, il n'y a pas de le public, les artistes. En fait, ce soir-là, on est tous dans la même aventure, on est tous dans la même communauté, quoi.
Voilà, et il y avait l'idée de ne rien cacher. Quadrifrontal aussi dans l'idée de pouvoir s'adapter partout, puisqu'on joue dans des théâtres, sur des plateaux suffisamment grands, on joue à l'extérieur, et puis on joue dans des chapiteaux où là, pour le coup, le quadrifrontal se transforme en circulaire, et pour nous, c'est assez simple. Donc
il y a un côté tout terrain du moment qu'on a l'espace de jeu qui existe, on peut aller n'importe où.
Voilà, et c'est une des choses qu'on souhaite développer. On veut rester dans cette dynamique de pas transporter de matériel, de transporter juste des gens, de faire avec le minimum de matos pour être léger, pour aussi, évidemment, les conditions aussi écologiques, il y a ce souci-là, ni transporter, ni stocker, de faire avec le matériel qui existe, de faire avec les moyens du bord, quoi, voilà. Et par contre, d'assumer d'être nombreux, parce que ça crée c'est pas rien quoi. Ça fait son effet, ça raconte aussi aujourd'hui. Le fait d'être nombreux, effectivement, c'est, tu l'as dit Mara, parce que ça fait peur, parce que ça coûte cher. Et en fait, nous, on essaye d'affirmer ça, que on a besoin d'être, de serrer les coudes et de rester collectif quoi, de rester en groupe.
C'est très intéressant, je trouve, que le spectacle, on pourrait dire qu'elle est très loin, par exemple, de cirque traditionnel ou de la tradition de cirque. Mais en même temps, en le voyant ici, au cirque de Riga, je me disais qu'au contraire, en fait, il y a tellement de choses qu'on retrouve. Le travail en circulaire, en quadrifrontal ou circulaire, le défi de pouvoir travailler sur tous les axes, pour tous les publics, de pas avoir un derrière caché, on peut se cacher, être tout le temps exposé. Le travail d'inviter les spectateurs sur scène, en contact, qui est aussi très présent. Et puis le travail avec la musique qui rythme, on dirait qu'il y a une sorte de dramaturgie du numéro, en fait, qu'on retrouve. Et puis avec une équipe aussi grande, de retrouver le grandeur, cette idée de vraiment avoir le miracle, voir le grandeur de cirque traditionnel. Je me suis posé les questions sur ça hier soir. Je me suis dit, d'un côté, c'est le spectacle le plus loin de stéréotypes que pourraient avoir les spectateurs qui arrivent peut-être la première soir au cirque de Riga depuis la rénovation et depuis que le cirque a changé. Mais que d'autre côté, en fait, il y a tellement de codes qui soient partagés dans ces spectacles qu'on ne retrouve pas dans des spectacles de cirque contemporain.
Oui, c'est sûr qu'il y a une vraie analyse de où on se situe et qu'est-ce qui fait cirque. Effectivement, il y a les notions de prise de risque. Il y a le clown. Il y a effectivement la porosité, le rapport avec les gens. Voilà. Et le circulaire. Donc oui. Et le rapport, le côté populaire aussi, dans le bon sens du terme. Donc c'est quelque chose qu'aussi, on se situe vraiment à cet endroit-là. Nous, on est clairement dans une démarche très contemporaine, dans nos recherches autour de l'acrobatie. On cherche à détourner les codes, mais le frisson reste là. Différent. Il est différent d'un double salto arrivé colonne. Où on va jouer sur des choses un petit peu sur d'autres leviers, mais l'émotion reste la même. Et effectivement, dans la construction aussi, la dramaturgie, oui, on s'inspire des codes du cirque traditionnel, du cirque classique, on va dire.
On a parlé de la scénographie, de la musique, d'équipe. Mais je pense qu'il y a un quatrième aspect très, très important dans ce spectacle, et c'est vraiment votre interaction avec le public, comment le public devient une vraie part de spectacle. pourquoi ce choix d'abord, et puis comment vous avez travaillé cette interaction avec le public pour pouvoir en arriver là, que partout où vous allez, le public s'y prête à cet exercice.
Alors, ça nous a demandé du temps, effectivement. Alors, je parlais tout à l'heure du projet des voyages avec XY, donc c'est vraiment un projet qui nous a permis d'expérimenter pas mal de choses dans l'espace public, d'aller à l'aventure dans les rues, autour de l'acte de porter, d'aller vivre des aventures avec des inconnus, des passants. Donc ça nous a beaucoup aidé, les quelques-uns qui ont participé ensuite à l'aventure du Grand Soir. On a transposé ce travail aussi autour de ce qu'on appelle des balles sauvages, avec le doux supplice, donc où on partait à l'aventure dans les rues avec une enceinte Bluetooth, un lecteur MP3, et Zou essayait d'inviter des gens avec l'espoir d'arriver à vivre des aventures dansantes avec des passants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup servi pour être fin dans l'invitation. Parce que quand dans l'espace public, les gens ne s'attendent pas forcément à être invités, à vivre quelque chose. Voilà. Donc il faut être très subtil, il faut être très doux.
Puis, il s'agit pas de forcer aussi.
Voilà.
Il n'y a jamais cette intention-là d'obliger les gens à... Voilà. À y aller, d'en faire des faire-valoir aussi.
Là aussi, on voulait pas tomber dans les pièges, dans les écueils de mettre les gens en malaise ou d'en faire nos faire-valoir. Voilà exactement comme dit Camille. Et puis à chaque résidence aussi, on faisait des sorties, on a éprouvé ça pas mal. Puis bon, bah maintenant, on en est bientôt à la 200e. Ça n'empêche pas que parfois on se prend quelques râteaux, mais on apprend déjà à prendre le temps. Pas aller à la chasse aux partenaires. Donc ça se passe aussi par le regard, de pas être pressé, de prendre son temps, d'être doux, d'être tranquille. Et puis aussi le spectacle s'appuie sur un processus qui fait que on sait que ça suscite l'envie, pas chez tout le monde et pas au même rythme, mais on sait repérer ceux qui sont mûrs. On va dire. Et à la fin, on sent bien que du coup, effectivement, les gens s'emparent des choses et viennent d'eux-mêmes sur la fin. Et ça, c'est magique. Et ça, c'est une satisfaction immense de sentir que ce processus fonctionne à chaque fois, partout. Nous, on a beaucoup travaillé sur le fait d'être pas être les meilleurs danseurs, mais d'être les meilleurs partenaires. Ça, c'est hyper important aussi. Il s'agit pas de bien danser, mais d'être généreux, voilà. Du coup, quand on invite quelqu'un, on essaie de prendre le temps aussi avec, de vivre une aventure et de pas imposer, par exemple, un pas, de sentir la personne, de pas être, voilà. Donc. Et après, pour finir, il y a vraiment une notion aussi, quand même, de manipulation. Parce que, en fait, ce processus, on se rend compte qu'il fonctionne et que, on vient, en fait, intégrer les gens viennent s'intégrer à une écriture chorégraphique. On leur fait faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Et ça, du coup, là, on aborde une notion de manipulation qui est assez intéressante, qui nous intéresse et qu'on va poursuivre pour la prochaine création, parce que on se rend compte qu'avec quelques ficelles, on arrive à faire ce qu'on veut aux gens. Et ça questionne.
Moi, en tant que spectateur, la première chose qui m'a le plus touchée dans le spectacle, c'était le soin. J'avais l'impression vraiment que c'est quelque chose qu'on voit sur scène. Souvent, quand je présente cirque, quand je parle de cirque, je parle de valeurs, de prendre soin de l'un de l'autre. Et moi, je trouve que c'est dans ces spectacles, on voit vraiment ça dès le début du spectacle. Cette question de s'appuyer sur l'autre, de construire cet espace sécurisé physiquement et émotionnellement. Et pareillement, quand on voit les voltigeurs, être en haut, de voir toute cette concentration de tous les autres danseurs et acrobates qui sont seuls, d'avoir une vraie concentration sur la personne qui est en haut, avec vraiment un soin qui est dans le geste, dans le regard, et qui est transmis après aussi aux spectateurs qu'on est invité. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de la technique ou pratique elle-même, ou c'est quelque chose dont vous avez aussi réfléchi pendant les créations de spectacles?
Je crois que c'est, même au-delà de ça, je crois que c'est quelque chose qui fait partie de nous, le soin à l'autre. Parce que en effet, au plateau, on est très attentif au public, ils sont très attentifs entre eux. Mais c'est vrai aussi à l'extérieur. On a cette vigilance, en tout cas, avec Pierre-Jean, d'être à l'écoute de l'équipe. Je crois que c'est aussi vrai, l'inverse est aussi vrai. Chacun est attentif aussi à l'extérieur du plateau. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que ça transparaît autant. C'est au fond de nous aussi. On est comme ça.
Et je suis pas sûr que ce soit inhérent à la pratique de l'acrobatie et des portées. Ça peut l'être. Ça l'est, j'espère. Mais il y a aussi des rapports très durs dans les pratiques acrobatiques de portée, en duo ou même en collectif. C'est pas forcément toujours soigneux. Pas partout, tout le temps. Et c'est vrai que nous, on essaye vraiment de développer ça. Parce qu'aussi, on a des années derrière nous et que du coup, on se rend compte que c'est comme ça aussi qu'on peut continuer, que c'est agréable, qu'on prend du plaisir. Et c'est ce qu'on souhaite aussi raconter au public et au monde, quoi. Enfin, c'est notre rapport au monde aussi qu'on dévoile et que on pense sincèrement que ça passe par là. Ouais, la relation, en fait, c'est la relation qui est au centre du travail. Donc la relation à soi-même déjà, la relation à son partenaire, à l'espace, au public. Ça, c'est une notion qui est fondamentale dans le travail de la compagnie, c'est la relation. Donc du coup, le soin à la relation.
On a parlé de soin et plus largement de cette relation que vous voulez partager avec le public. Est-ce qu'il y a des autres idées ou des autres valeurs? Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas encore parlé?
Il y a un truc qui est très présent alors dans le Grand Soir et qui va prendre une autre dimension aussi dans la prochaine création et qui fait aussi le constat de notre société aujourd'hui, c'est que je pense que ce qu'on a envie de communiquer, c'est que il faut qu'on fasse ensemble et même si on a des clivages, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout, il va falloir qu'on fasse société ensemble et que on traverse les années à venir ensemble et qu'on se réunisse. Je crois que ça, c'est très fort et c'est un vrai point de départ dans nos réflexions pour la prochaine création.
Par contre, on essaie d'éviter d'être trop volontaire dans ce qu'on veut raconter. Le spectacle raconte l'aventure de sa création, beaucoup, et j'évite de trop vouloir être trop didactique ou trop sûr de ce qu'on veut raconter. On prend soin du processus, on essaie du processus de création, que chacun trouve sa place, etc. Parce qu'en fait, c'est ça que ça va raconter. Et en fait, quand on veut raconter quelque chose, parfois, on a du mal à l'atteindre. Donc, je me concentre sur des rêves aussi chorégraphiques, de recherches vertigineuses, Et puis après, on voit ce que ça fait aux gens, en fait. Voilà, on essaie de se concentrer sur ce qu'on a à faire, sur ce qu'on a envie de vivre et de le vivre vraiment, en fait. Et ensuite, on verra. Et il se trouve que le Grand Soir, ça a pris, ça raconte des choses aux gens, mais on ne sait pas tout ce que ça raconte aux gens. On sait que oui, on va aller jouer avec les mémoires, les souvenirs des gens, la danse. Pour le coup, c'est quelque chose que on a tous des souvenirs de danse, même des petits. Ou en tout cas là, on en offre, ils s'en font avec nous, les enfants. Voilà, pour dire que voilà, on n'a pas non plus de grands messages à transmettre. On préfère laisser les gens vivre leurs émotions.
Alors si on est là, peut-être qu'on peut continuer sur le futur projet de la compagnie. Quels sont les autres projets de la compagnie existants au futur qu'on pourrait découvrir?
Alors on a un duo qui s'appelle La Concordance des temps, qui a été écrit par Pierre-Jean et par Guillaume Sandron, qui est sorti en 2022, qui a une version pour la salle et les espaces non dédiés, qui parle beaucoup de la relation et du cheminement, où ils ont un peu cherché à déconstruire aussi la relation porteur-voltigeur et la manière de pratiquer les portées. Et puis on a à venir une plus grosse forme, avec 10 artistes au plateau cette fois, pour l'espace public, qui sortira en juin 2026 et qui va s'appeler Les Petites Épopées.
Avec Guillaume, on a... en fait, ça fait plusieurs projets qu'on a fait ensemble. On a commencé avec les voyages, on a fait le Grand Soir. Et puis du coup, ça a mis en valeur, ou en tout cas, ça a mis à jour une relation assez hyper fine, hyper subtile, que ce soit moi sur ses épaules ou moi dans ses bras, parce que du coup, voilà, on a beaucoup travaillé sur comment on danse ensemble pour le grand soir, etc. Et du coup, on s'est dit que vraiment, ça valait le coup de pousser un peu, parce qu'il y avait matière. Et effectivement, on a très vite développé de la matière hyper simple, hyper fine. Donc, on a développé tout un travail graphique aussi sur en lenteur. D'assumer aussi, voilà, tous les deux, on a le même âge, on a 45 ans. Donc, on fait plus de l'acrobatie comme avant, comme il y a 20 ans. On en a fait beaucoup, lui et moi, à travers nos parcours. Par contre, on garde le même goût du vertige, du frisson, de la prise de risque, de l'engagement physique, total même. Mais du coup, on a vraiment développé d'autres façons de faire, quoi, qu'on avait entamé avec le grand soir. Et là, ça nous a vraiment servi de laboratoire et de trait d'union. Parce que c'est vraiment une petite forme à deux. Donc, cette concordance, c'est vraiment un trait d'union entre le grand soir et les petites épopées. Où à nouveau, on repart sur une forme un peu grande. Donc, avec la concordance des temps, on a pu faire une version pour espace non dédié à l'invitation du festival Chalon dans la rue, Chalon-sur-Saône, où vraiment on a juste du son. Tu parlais de scénographie, que la musique fait scénographie, là, c'est d'autant plus, là, puisque dans cette version non dédiée, il y a juste du son, il n'y a pas de gradin, pas de scène. Donc on a pu explorer ça dans des espaces un peu naturels ou dans un cloître. Donc des espaces un petit peu qui se prêtent pas forcément à l'accueil de spectacles d'habitude. Et on se rend compte que ça crée un rapport aux gens différent aussi, et là pour le coup à la foule. Et avec les petites épopées, il y a l'idée du coup de poursuivre ce travail, de tirer les fils et du vertige, du chorégraphique du participatif ou de l'inclusif. Et là, ce sera un travail, du coup, autour de la foule, ou au cœur de la foule, plutôt. Puisque, donc, ce sera pour des places de centre-ville, avec un point de rendez-vous, qui sera clair. Et du coup, la foule, on viendra créer des espaces à travers la foule, créer un espace de jeu, et développer, donc, une épopée, une grande, grande aventure, dans laquelle on tentera d'embarquer, une partie, en tout cas, des gens, avec nous. La danse sera plus le sujet. Maintenant, ça fait partie de notre langage, c'est clair. On connaît notre capacité à mettre à jour des processus et à embarquer les gens à mettre les gens en mouvement. Donc là, on va explorer ça. C'est pas tant l'espace public en tant que tel qui nous inspire en tant que décor, mais les grands espaces que ça nous offre. C'est-à-dire que du coup, nous, avec le travail sur les vertiges, on va pouvoir avoir 20-25 mètres pour pouvoir faire des chutes interminables.
Et la danse, c'est plus le sujet, mais ça se dirige quand même vers une grande liesse à la fin, parce que ça reste quand même important.
Effectivement. Oui, parce que ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. Et puis, ouais, nous, ça nous donne du sens, en fait, à ce qu'on fait aussi. C'est sûr d'arriver à rassembler, quoi. D'être rassembleur. Et donc, oui, ça restera un objectif, la liesse.
Je vais poser une question que on a posée dans ce podcast à tous les gens. Qu'est-ce qui est le cirque contemporain pour vous ?
C'est sûr que c'est difficile de répondre parce que le cirque contemporain, il a pris en France notamment, il a pris une mille facettes, il s'est développé de mille manières et c'est tant mieux. Nous, on essaye de répondre à ça à travers nos spectacles, nos recherches. Moi, je continue de me sentir circassien dans le côté populaire tout en étant sans être dans du entertainment, sans être dans un produit, côté accessible, voilà, entre le côté intello.
Et en même temps, il y a aussi des œuvres de cirque contemporain aujourd'hui qui sont moins accessibles. Enfin, moi, j'ai l'impression que aussi se développe de plus en plus un cirque qu'on retrouve sur les plateaux et qui sont moins accessibles
et qui font bouger d'autres lignes. Bon, moi j'ai pas, il y a pas de jugement. En tout cas, nous, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que le cirque contemporain ? Nous, notre réponse, c'est nos spectacles. Mais en tout cas, ouais, moi, ce qui pour moi définit, c'est ça. Il y a ce rapport au populaire, à la prise de risque. je crois que c'est quelque chose qui reste quand même dans les fondamentaux. Mais je crois qu'en tout cas, le cirque contemporain, il remplit des salles. C'est quelque chose qui est, c'est un des arts aujourd'hui qui continue d'attirer du public familial.
Je travaille pour une structure sur Montpellier qui organise un festival de cirque et on a un public jeune. On a un public d'université, mais on a aussi un public entre 20 et 30 ans. Et je crois que c'est aussi un domaine où qui se pose aussi les questions autour de l'environnement, du genre, du numérique. Enfin voilà, il y a aussi tout ça qui est en train d'arriver, je crois.
Merci beaucoup Pierre-Jean et Camille pour cette discussion fascinante. Votre spectacle a véritablement marqué la fin de notre saison ici à Riga et je suis sûre que nos auditeurs, qu'ils aient vu ou non en attendant le grand soir, sont maintenant curieux d'en savoir plus sur votre travail et sur l'avenir de Cirque Contemporain. Merci encore.
Rīgas cirks piedāvā sarunas par cirku.